entretien. Des mots, des histoires de vie et du temps pour les dire. Patrick Robert. Sigma de l'intérieur, des beaux jours à la faillite. Deuxième épisode.
Patrick Robert publie « Chaque heure compte » aux éditions Éric Bonnier. C'est un passionnant pavé de 600 pages. Patrick Robert nous narre avec rigueur, précision et détail son parcours du laboratoire de Sipa Press à ses reportages pour l'agence de presse Sigma. On commence à oublier qu'à la fin du XXe siècle, Sigma était l'agence photo la plus prestigieuse du monde. Celle à qui les grands magazines illustrés passaient toutes les semaines des commandes ou achetaient des couvertures en exclusivité. Dans ce deuxième épisode, Patrick Robert dresse un portrait de HH, Hubert Henrot, le fondateur de Gamma puis de Sigma. Avec sa rigueur habituelle, Patrick Robert nous parle de l'organisation de l'agence de presse Sigma, puis de la déconfiture, du rachat par Bill Gates à la grève et au licenciement de tout le staff de l'agence. Le naufrage vu de l'intérieur.
Tout de suite, le premier jour où je suis arrivé, j'ai été convoqué au bureau du patron. Il m'a souhaité la bienvenue. Il m'a rassuré sur le fait que j'aurais accès partout où il y aurait l'actu internationale. Je n'étais pas tout seul à le faire, mais enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il n'y a pas de domaine réservé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un photographe qui couvre tel conflit et qu'il aura la priorité. Bon, en fait, il y avait quand même des petits domaines de priorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un photographe connaît bien un endroit, c'est mieux qu'il retourne dans l'avenir parce qu'il a ses contacts, il a ses relations, il sait plus ou moins tout. Donc, c'était comme ça. Mais enfin, ce n'était pas une règle absolue. Je suis arrivé à une époque à Sigma où beaucoup de photographes partaient. Soit qui prenaient leur retraite, c'était le cas de beaucoup, soit qui partaient dans un autre projet de vie, ils abandonnaient la presse, etc., soit ils se mettaient indépendants, etc. Donc il y a eu une sorte de une batterie de départ. Il y en a qui sont partis faire de la réalisation vidéo, bref. Donc du coup, je me suis trouvé, par chance, à une période où il y avait de la place, en fait, pour moi, je pouvais aller partout où je voulais. J'ai eu accès aux grandes news très vite, pratiquement sans limite.
Oui, tu as été beaucoup en Afghanistan.
Oui, j'étais beaucoup en Afghanistan, mais j'étais partout. J'étais en Israël, beaucoup. C'était le début de la première intifada. J'étais beaucoup en Afrique. J'étais beaucoup en Asie. Au moment de la chute du mur de Berlin et la chute du démantèlement de l'Union soviétique, j'ai beaucoup travaillé en Europe de l'Est et en Russie. De fait, ça m'a beaucoup dispersé. C'est un peu le reproche, l'inconvénient de ma carrière, c'est que je me suis beaucoup dispersé et je n'ai pas peut-être développé assez tel ou tel domaine. Mais moi, c'était mon intérêt d'être dispersé. C'est ça qui faisait mon intérêt personnel, d'avoir un œil sur l'Asie, aussi bien que sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, l'Europe centrale, l'Union soviétique, et puis l'Europe. J'ai aussi fait de la politique française, et puis je faisais aussi des tournages de films, des portraits de personnalités, d'artistes, etc. Tout m'intéressait. Tout ce qui contribuait à la compréhension de mon époque m'intéressait. C'était ça, en fait, mon intention, la compréhension de mon époque. Et donc, aussi bien l'art que dans les conflits, que dans la politique, et même l'économie, tout m'intéressait. Donc je me suis beaucoup dispersé, et donc c'est vrai que j'ai perdu en notoriété parce que je n'étais pas identifié comme un photographe spécialisé de tel ou tel domaine.
Du coup, tu arrivais à en vivre bien ?
Et j'ai toujours, à Sigma, refusé ce qu'on appelait le minimum garanti. Le minimum garanti, c'était un salaire dû, quel que soit le montant de tes relevés de vente.
Oui.
C'est-à-dire que si tes relevés de vente étaient inférieurs à ton minimum garanti, tu touchais quand même ton minimum garanti et tu restais débiteur de la différence. Si le mois suivant, ton relevé était supérieur à ton minimum garanti, l'agence récupérait ce qu'elle t'avait avancé le mois précédent et tu restais sur ton minimum garanti. Et tu touchais plus que si tes relevés de vente étaient supérieurs à ton minimum garanti et que tu n'avais pas de débit par ailleurs. Et moi, j'ai toujours refusé ce système. J'ai toujours pris le risque de n'être payé que en fonction de mes ventes réelles. Donc c'était une sorte de stimulation personnelle que je me mettais, une sorte de pression personnelle que je me mettais pour pas m'endormir sur le confort d'avoir un minimum garanti. Et en fait, c'était une erreur parce que je ne regrette pas, hein, parce que ça m'a tenu, ça m'a mis la pression pendant toutes ces années et j'en avais besoin. Mais en revanche, quand l'agence a été vendue et qu'on a licencié tous les photographes, eh ben, on s'est basé sur les salaires minimums, qui étaient pour la plupart des photographes très supérieurs à leurs ventes réelles. Et donc, leurs indemnités de licenciement ont été calculées sur leur minimum garanti, alors même qu'ils étaient terriblement en déficit. Alors que moi, mes indemnités de licenciement ont été calculées sur la valeur réelle de mes ventes.
Tu parles de la fin de l'agence. Comment tu as vécu le départ d'Hubert Henrotte ?
Mais je l'ai vécu très mal parce que c'était impensable que le fondateur de l'agence, mais pas seulement de l'agence, c'est le fondateur du système des agences de presse. C'est lui qui avait inventé le système des agences en créant Gamma. Il y avait déjà des agences avant lui, mais elles ne fonctionnaient pas du tout de la même façon. Lui, il a inventé tout un système. Il a inventé, par exemple, il a réussi à imposer aux magazines l'usage des duplicata. Avant, on distribuait aux magazines des photos originales. Et donc, il y avait beaucoup de photos qui se perdaient. Et puis, une fois qu'un magazine avait publié une photo originale, eh bien, on ne l'avait pas, ce négatif, cette diapositive, pour donner à un autre magazine en même temps. Donc, on était obligé de diluer les reportages comme ça d'un magazine à un autre. Et voilà. Donc, bon, ça fonctionnait. On ne s'en rendait pas trop compte tant que les magazines et tant que la presse était principalement diffusée en noir et blanc. Parce que, évidemment, on pouvait faire des tirages noir et blanc à volonté. Mais pour la couleur, ça posait un problème. Un problème de duplicata, parce que les duplicata étaient de mauvaise qualité. Et Hubert Henrotte a réussi à obtenir, ils ont travaillé avec les techniciens sur une qualité de duplicata qui était extrêmement proche de l'original et qui a rendu possible l'usage des duplicata pour l'impression des magazines avec une grande qualité pour les hebdos couleurs. Donc ça, et puis aussi, il a inventé le système des vendeurs en l'organisant, les vendeurs qui vont faire le tour des rédactions pour distribuer les reportages.
Quand Hubert Henrotte est parti, et Monique Kuznetsov aussi, tu l'as mal vécu.
D'abord, c'était une grande incertitude sur la façon dont les choses allaient être gérées, et surtout, on était abandonné à une direction qui n'avait pas du tout les mêmes compétences, ni la même légitimité. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, Hubert Henrotte a vendu l'agence à un financier parce qu'on avait des problèmes financiers, parce que c'est tombé au moment, juste après les lois Evin, qui ont contribué à l'appauvrissement des magazines, nos clients. Les magazines américains, à cette époque, nous faisaient moins travailler aussi, ils avaient moins d'argent eux-mêmes. Donc, il y a eu un appauvrissement des magazines avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Et en même temps, il fallait considérablement investir dans la numérisation des archives, parce qu'il y avait la gestion de la révolution numérique qu'il fallait gérer, et dont Hubert Henrotte était absolument conscient de l'importance, etc., avant tout le monde. Et le problème, c'est que cette adaptation au numérique coûtait très très cher. Pour revenir à la vente de Sigma, Hubert a dû vendre l'agence à un financier qui s'était engagé à investir 20 millions, alors je crois que c'était des francs à l'époque, hein, dans la numérisation. Mais évidemment, l'investisseur a pris le contrôle de la boîte, mais il n'a jamais mis l'argent. Et au contraire, il a viré Hubert et Monique. Il les a licenciés. Puisque comme il était majoritaire dans le capital, il avait ce pouvoir. Alors que c'était contraire à ses engagements, etc. Enfin bref. Et à ce moment-là, nous, on a vécu ça comme une trahison. Et très vite, une fois que Hubert et Monique ont été écartés, il a vendu aux Américains, à Corbis. Il y a eu un mouvement de défiance du personnel de Sigma, photographes et salariés, contre les Américains, un peu par réaction anti-américaine, anti-capitaliste, etc., que moi j'ai trouvé grotesque et ridicule, et surtout suicidaire. Mais je pense que c'était le but recherché par la plupart des salariés, c'était de créer une situation de conflit telle que ça fasse gonfler leurs indemnités de licenciement. Voilà. Donc je pense, moi, que c'est les salariés de Sigma, de Sigma, qui ont sabordé la boîte.
Oui, non, parce qu'il y avait aussi le fait que les gens de Corbis maîtrisaient mal le métier, en fait.
C'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'il fallait faire le contraire. Il fallait les convaincre qu'ils avaient acheté une pépite. Mmh. Et que cette pépite, elle méritait d'exister. On aurait pu prendre le lead des agences privées. On aurait pu vraiment, avec l'argent de Corbis. On avait vraiment les moyens de le faire. Mais ça n'a pas pu se faire parce que personne n'avait cette idée. On avait l'idée de la rupture. Évidemment, ça ne se serait pas passé comme ça avec Hubert Henrot.
Mmh. Oui, il n'y a pas eu de proposition. Il y a eu juste une défiance.
Moi, j'ai vaguement essayé, mais je n'avais pas l'autorité naturelle pour le faire. Je me suis fait humilier, ridiculiser, insulter. Moi, j'avais proposé qu'on prenne le pouvoir, qu'on propose un truc aux Américains, qu'on fasse une société des photographes et qu'on ait un contrat d'exclusivité avec Getty, avec Corbis, etc., qu'on prenne le pouvoir. Et on m'a traité de jaune, on m'a traité de collabo, on m'a traité, enfin voilà, le français quoi. Alors que aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'avais raison. On aurait sauvé les meubles.
Et toi, pendant toute cette crise, tu continuais à travailler ?
Bah oui, j'étais le seul.
Et ça s'est terminé.
La crise a commencé après le 11 septembre 2001. Et moi, j'étais en Afghanistan. J'étais en Afghanistan, j'étais tout seul, parce que quand il fallait partir en Afghanistan, il n'y avait pas de photographe du staff disponible. Les Américains ne comprenaient pas. Ils avaient acheté une agence de presse. Leur armée, l'armée américaine, envahit l'Afghanistan. Il y avait le 11 septembre, c'était quand même une histoire hallucinante. C'était quand même une énorme histoire aux États-Unis. Et eux, comme par hasard, juste l'année précédente, ils achètent une agence de presse. Et là, stupéfaction, les photographes ne veulent pas y aller. Ils ne comprennent pas les Américains. Et donc j'étais le seul. Moi, je suis parti tout de suite dès que j'ai pu, mais j'étais le seul. Il aurait fallu d'autres photographes. La surface de l'événement était telle qu'on aurait pu mettre 4-5 photographes. On mettait 4-5 photographes pour beaucoup moins que ça, hein, par ailleurs. Donc bref, je suis parti tout seul et il n'y avait pas d'autres volontaires. Et pour te donner un exemple, quand je raconte vaguement l'histoire, l'hélicoptère qui m'a amené à côté de Kaboul a une panne et on s'est posé dans le nord de l'Afghanistan. Et du coup, là, je réalise, ça j'explique dans le texte, je réalise que je suis au centre de commandement de l'Alliance du Nord, le mouvement de Massoud, l'endroit où il a été assassiné d'ailleurs. Et je me rends compte que là, en fait, ils sont tous là. L'armée afghane est là. Et que j'ai la confirmation, la confidence d'un général, avec qui j'avais sympathisé, qui m'a dit « Oui, l'offensive terrestre partira d'ici. C'est nous qui allons libérer Kaboul. » Donc je me suis dit « c'est plus la peine que j'aille à Kaboul, il ne va rien s'y passer, puisque ça va partir d'ici. » Et donc, du coup, je décide de rester là. Et j'appelle Tiercé et je lui dis « Écoute, il faut envoyer vraiment un autre photographe, trouve-en un, débrouille-toi, il faut envoyer un autre photographe, parce que c'est quand même très risqué d'envoyer personne à Kaboul. On ne sait jamais comment ça peut tourner. » Et donc, il ne trouve pas de photographe et il envoie un photographe qui fait du social. Je le vois arriver là dans le nord, pleine nuit, genre 2-3 heures du matin. Il était ravagé, hirsute, totalement physiquement détruit. Alors, ça faisait 3 jours qu'il était parti seulement. Et la première chose qu'il me dit, je te préviens, dans 10 jours, je suis dans l'avion du retour, quoi qu'il arrive. 10 jours après, il était reparti. Et le 11e jour, les Américains attaquent. Il n'était plus là. Bon, il s'en est voulu, hein. Il s'en est voulu. Donc, c'est ça que les Américains ont acheté.
Et comment tu apprends alors la fin de Sigma ?
Je suis en Afghanistan, là. On attend, j'attends, je travaille tous les jours, hein. Mais enfin, on attend la grande offensive qui va libérer le pays d'Al-Qaïda, en fait, hein. Et là, je reçois un appel de Tiercé qui me dit « Toute la maison est en grève. » on est en conflit avec Corbis, Et donc, tu peux rentrer. Mais j'ai dit, écoute, moi, je ne fais pas grève. Moi, je travaille pour moi. Je ne suis pas un mouton qui suit le mouvement. Je suis sur un événement historique, mondial. Je ne vais pas rentrer parce qu'il y a un mouvement social que je désapprouve en plus. Donc, je continue à travailler. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Et quand je suis... Donc, je suis resté le temps qu'il fallait. Hein. Je suis rentré quand j'ai pensé que l'histoire était suffisante.
Et là, c'était la fin.
Donc là, j'ai trouvé la boîte totalement à l'arrêt. Voilà. C'était la fin. Donc après, on a été viré, licencié. Donc, plan social, l'horreur, quoi. Et comme le plan social mettait à notre disposition des comptables et des avocats, etc., pour créer des sociétés ou quoi, j'ai créé ma société, que j'ai fait homologuer comme agence de presse, et voilà.
Ce podcast a été enregistré par téléphone le 28 août 2023 par Michel Puech. La réalisation est de Jean-Louis Vinet, avec la voix de Rose Monet et les musiques de Paz. C'est une production de l'association Journalisme et Photographie.